Et de deux circonstances qui sont arrivées à des conférenciers au séminaire français, vous rappelez-vous, Monseigneur, il y avait des évêques, certains théologiens de passage, que le père Leflocq, supérieur, invitait de parler. Et certains, il avait hésité de les inviter, par exemple, Monseigneur Julien, évêque d'Arras, qui était à l'époque, n'est-ce pas, un évêque assez libéral. Et alors, tout de même, il ne pouvait pas éviter, il les invitait à parler. Et puis, parfois, au cours de la conférence, il y avait quelque chose qui sonnait mal, n'est-ce pas. Et alors, il y avait une panne d'électricité. Il y a des pannes partout. Et comme le fait s'est reproduit de notre temps 3 ou 4 fois, on s'est dit, vraiment, l'EDF italienne a des composantes un peu particulières. Alors malheureusement, même si vous s'y pris de l'électricité, il ferait encore chaud. Bon, alors, soyons sérieux. Monseigneur m'a demandé, et quelques-uns d'entre vous, de parler de préférence du droit canonique. Je vais vous en parler d'une manière très simple et très pratique, parce que le droit canonique est une science. Et si je me mettais à vous parler de l'histoire du droit canonique à tel ou tel chapitre, ce serait immense et très au-dessous de mes forces. Alors je vais vous donner mon expérience. Au séminaire français, vous rappelez-vous, Monseigneur, nous avions des cours communs de nos années de séminaire, en tout et pour tout, un cours de droit public, à la première année de théologie. Nous avons eu la chance d'avoir un homme éminent qui s'appelait le père Capello. Vous l'avez. Si bien que nous avons été formés au droit public, qui est en effet, pour ceux qui ne doivent pas se spécialiser dans le droit canonique, la chose la plus importante. Dans le droit public, on étudie quelles sont les institutions de l'Église, le souverain pontificat, l'épiscopat, le sacerdoce, les rapports de l'Église et de l'État, et des chapitres de cette espèce, le droit public, c'est-à-dire l'Église considérée comme une institution publique. Bon. Mais il y a dans le droit canonique autre chose que le droit public. Il y a des chapitres particuliers. Prenez prenez un code, vous avez un livre entier sur le droit des personnes. Vous avez les sacrements, vous avez ensuite ce que le code appelle les choses, deribus. C'est un autre général, parce qu'il fallait un autre général pour placer dans ce chapitre ce qui a rapport aux biais ecclésiastiques, aux associations, voilà. Puis, il y a un chapitre très pénible, déjà, les procès. Alors, dans ces procès, il y a les procès, c'est pas où on se dispute. Et puis, il y a les procès de béatification. Et enfin, il y a le cinquième livre. Ça me fait sourire parce que, quand j'étais... J'ai des relations assez étroites avec le diocèse de Montpellier. Et un jour, un séminariste qui faisait encore ses études au séminaire de Montpellier, je le questionnais sur le droit canonique, il me dit, mais ce nom ne vous a pas beaucoup intéressé. Hein? Mais notre professeur vous a étudié pendant toute une année les causes de béatification. C'était évidemment intéressant, mais c'était insuffisant, n'est-ce pas? Et alors, ce bon professeur, c'était des lazaristes, et avait été chargé d'étudier la cause de béatification de je ne sais quel prêtre de Montpellier. Alors, il était le premier des causes de béatification, c'est-à-dire qu'il servait en petit plat à ses évêques ce qu'il avait cuisiné pendant toute la semaine, voyez-vous. C'était évidemment insuffisant. Alors, il y a donc les procès, et puis il y a enfin un livre intitulé « De delictis et penis », les délits et les peines. C'est le droit pénal de l'Église. Alors, je vous donne maintenant l'exposé général du droit canonique tel qu'il existait jusqu'au dernier concile. Et Monseigneur me disait que on est en train de faire des modifications considérables. Vous savez que le concile lui-même a décidé de refondre ce qui, en effet, pouvait être utile. Il y avait des chapitres du droit canonique qui n'avaient plus d'utilité. Par exemple, je prends cet exemple, le droit de patronage. Le droit de patronage a été une chose qui a eu dans l'histoire de l'Église une certaine utilité. Un patron était celui qui avait, par exemple, fondé une église particulière ou bien une fraternité. Alors ça lui donnait des droits de nomination, pas absolu, mais il proposait trois noms à l'évêque, l'évêque choisissait, voyez-vous. Et ce droit de patronage a eu son utilité. Seulement aujourd'hui, on ne voit pas M. Mitterrand ayant un droit de patronage sur l'archevêque de Paris. Il l'a en fait, mais on ne le dit pas, n'est-ce pas ? Je dis sans le savoir, n'est-ce pas ? Et puisque nous sommes au fait précis, je vais vous citer un fait qui me vient, parce que il n'y a rien comme les faits pour illustrer les principes. Je me trouvais connaître avant la guerre, cette guerre-ci, un homme illustre qui est mort aujourd'hui, qui s'appelait Le Bras. Vous avez entendu parler de Le Bras ? Il faut connaître Le Bras. Le Bras est un des ancêtres de la sociologie. Le Bras, comme le nom l'indique, c'était un breton, très breton. Il avait une curiosité très vaste, il s'intéressait à l'occultisme, mais c'était surtout un canoniste, il a été doyen de la faculté de droit laïque à Paris. Seulement, je ne pouvais le connaître, et il fut désigné à ce qu'on appelle la libération, après la guerre, et il fut chargé. Il a été sur le point d'être ambassadeur auprès du Saint-Siège, puis on lui a préféré Maritain. Et Le Bras avait un bureau au Quai d'Orsay, au personnel, et il établissait des projets, des fiches pour des futurs évêques. Alors je lui dis, professeur, il était professeur, vous devriez tout de même proposer quelques sujets désirables, n'est-ce pas ? Je ne pensais pas à moi parce que j'avais 3 ou 4 raisons de ne pas devenir évêque. Mais alors je lui ai dit, mais nous ne demandons que des noms, donnez-moi des noms. Alors, il me dit, eh bien, donnez-nous des noms. Je lui ai dit, mais il y en a un, c'est l'abbé Roule. À Nantes, vous n'avez pas entendu parler de la déroule. Ah, il est un prêtre éminent à tout point de vue. Il me dit, mais oui, on vous a donné ce nom, mais je n'ai jamais pu le faire passer. Vous voyez, bon. Et puis, alors je lui avais indiqué le nom de notre prêtre de Nantes, parce que à ce moment-là, il était question de notre diocèse de Versailles était veuf, vacant. Alors on cherchait un évêque. Alors je lui dis, vous avez l'abbé Pignon, Prion ? Oui. Ah, je serais tout disposé à donner de bonnes notes en sa faveur, mais on a stoppé sa candidature. Parce qu'on a dit qu'il passait ses journées à aller à la pêche. Vous voyez comment on peut décapiter quelqu'un ? Et comment pouvez-vous, au Quai d'Orsay, accepter des choses de cette espèce ? Voyez-vous ? Un autre exemple, afin que ça nous entraîne trop loin. Alors c'est pour dire que, je ne sais pas pourquoi je disais ça, il faut donc connaître les institutions, les structures, comme on dit aujourd'hui, qui sont décrites dans le droit canonique. Alors, ce droit canonique est à la refonte, mais il y a des choses qui sont immuables. Ce qui est le droit divin ne peut pas changer. Et même ce qui est large, je dirais nouveau, c'est-à-dire ce qu'on appelle la collégialité ou les conférences épiscopales, eh bien, il y aura des limites qui sont les limites précisément du droit divin. Et puis en plus du droit divin, il y a les limites, alors je souligne ceci parce que c'est très important. En plus du droit divin positif, c'est-à-dire les volontés exprimées par notre Seigneur, promulguées par les apôtres, ou bien développées par les apôtres, il y a le droit divin naturel, lequel s'ajoute au droit divin pour lui donner des applications précises. Par exemple, les sacrements sont d'institution divine positive. Le Seigneur a institué 7 sacrements. Il leur a donné, comme on dit, une forme, une matière, une formule, un ministre. Mais, il y a en plus des exigences qui ne sont pas de droit positif, mais qui sont de droit naturel. Est-ce que, par exemple, une femme peut, ne parlons pas de célébrer la messe, parce que là, on discutera, mais est-ce qu'elle peut confesser? Là, je crois qu'il y a une majorité qui dira non. Et cette majorité aura raison. Mais qu'est-ce qui dit ça? Est-ce que c'est le droit positif? Pas du tout. C'est un droit naturel qui veut, il y a des phrases du droit positif, n'est-ce pas? La parole de Saint Paul qui dit qu'il faut qu'une femme garde le silence dans l'Église. Parce que, comme on disait du cardinal Baudrillard, quand il prêchait à Notre-Dame, il dit, il prend la parole, mais il ne la rend pas. Parce qu'il était interminable, n'est-ce pas? Eh bien, si les femmes parlaient à l'Église, elles ne finiraient pas, n'est-ce pas? Alors, il y avait toutes sortes d'allusions désagréables. Il y aurait des jalousies, etc. Enfin, alors ça, c'est pas le droit positif. C'est le droit naturel, ou pour dire mieux, c'est le bon sens. Voyez-vous? Alors, ne perdez pas votre temps si l'occasion se présente de discuter si la femme est une personne humaine, si elle est digne de parler, de ne pas parler, si elle est légale ou non. Ne perdez pas votre temps. Dites simplement, les femmes n'ont pas la stabilité, n'est-ce pas, la stabilité nécessaire pour être ministre d'un sacrement. Alors, vous retrouvez la même chose pour d'autres sacrements, par exemple pour l'ordre qui vous intéresse particulièrement. L'ordre a donc été institué d'une manière indubitable par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Église a été obligée de spécifier les exigences requises pour que un candidat qui jusqu'à quel âge 5 ans.
Jusqu'à 5 heures et demie.
C'est bon. Bon. Mais je rendrai la parole, vous savez, je la rendrai. L'Église a été obligée d'introduire des exigences positives. Ces exigences ne sont pas apparues toujours tout de suite. C'est l'expérience qui les lui a indiquées. Et ces expériences ont été ensuite codifiées. Et au passage, je vous dis ceci qui est très important. Tous ceux, les imbéciles, disons, qui attaquent le juridisme, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils croient que les lois ont été faites par une commission, comme il y a seulement aujourd'hui, d'experts, n'est-ce pas? On disait qu'il y a les pères, il y a les experts, il y a les compères. Bien, les lois n'ont pas été faites de cette manière. Les lois n'ont été que la cristallisation d'expériences heureuses ou malheureuses, ou bien de consultations qui étaient proposées par un évêque de Narbonne, qui a interrogé, Narbonne était une ville importante, qui a interrogé le pape de ce temps, dont j'oublie le nom maintenant. Et alors, le pape lui répond, voyez-vous, c'était des consultations. Et ces consultations, en se multipliant, se sont figées et ont formé des lois. On a interrogé le pape, et c'est encore une preuve supplémentaire de la primauté pontificale. Il était interrogé même par des patriarches d'Alexandrie, de Jérusalem, de Constantinople, parce qu'on lui reconnaissait implicitement la primauté. Voyez-vous. Alors, quand vous entendez attaquer le juridisme, dites que ces lois sont fondées non seulement sur l'institution de notre Seigneur, sur la volonté du législateur suprême ou des conciles, mais sur l'expérience. Voyez-vous. Par exemple, je prends, on en a parlé récemment, l'expérience du néophyte. Bon, il y a une loi au sujet de l'ordre qui dit que le candidat aux ordres, et spécialement à l'épiscopat et au cardinalat, ne doit pas être un néophyte. Bon, il est donc exclu. Bon. Mais comme dans toute loi, il y a des exceptions, il y a des adultes. Bon. Mais sur quoi est fondée cette loi? Elle est fondée en partie sur la réflexion de saint Paul à Timothée. Il dit, n'impose pas les mots trop vite à un néophyte. Pourquoi? Mais il supporte bien et à tous, afin que exposer à se hausser, à se garder en superbe, en orgueil, il tombe dans les chaînes du diable. Ça, c'est l'expérience, voyez-vous. Il est l'expérience qu'un néophyte, un nouveau converti, a trop d'audace. Il se croit un être exceptionnel. On a vu ça, les néophytes qu'on a connus en France, beaucoup de juifs convertis, beaucoup de protestants convertis, étaient devenus insupportables, n'est-ce pas? Moi. Et nous avons vu, pardon de cette application, mais elle est tellement éclatante que je suis obligé de la dire, j'ai écrit déjà là-dessus. Le nouvel archevêque de Paris, qui s'appelle Lustiger, si on prononce en français, ou Stiger, si on prononce en allemand. Lustiger, qui est un dérivé de Lustig. S'il y en a pour vous qui connaissent l'allemand, ils doivent savoir ce que signifie Lustig en allemand. Bon. A dit, non pas en passant, mais il a dit ça à un journaliste de Saint-Vincent paru, ça a été publié dans la documentation catholique, vous trouverez. Il a dit, je suis juif, et je le resterai. Et puis, à une autre question, il a dit, mais voyons, est-ce que vous, dans votre situation, vous ne pensez pas à un prosélytisme à l'égard de Jésus? Non, dit-il, non, pas de prosélytisme, parce que le judaïsme est une vocation comme le christianisme, etc. Vous lirez ce texte-là. Eh bien, voilà un exemple. Bien. Non seulement ces choses-là sont fausses, bon, mais c'est certainement de ce côté-là qu'on peut l'affronter. Mais c'est cette espèce d'outrecuidance, cette arrogance de dire « je suis juif et je le resterai ». Bon, pourquoi dire ça? C'est évident qu'il le restera. Il ne peut pas changer. Les antisémites, autrefois, disaient qu'il y a 21 signes anatomiques de reconnaître un juif. Ben, il ne peut pas changer ce signe-là. Bon, je ne fais plus l'allusion particulière, n'est-ce pas? Et alors, d'autre part, si vous voulez être méchant, dire, vous êtes juif. Mais de quelle tribu? C'est important, ça. Vous savez que une manière de soutenir contre les juifs, qu'ils ne peuvent plus attendre, parce que les juifs fidèles attendent toujours le Messie. Et alors, le Messie, il faut qu'il soit reconnaissable. Or, depuis la destruction et la dispersion des juifs par Titus, ils ont perdu leur généalogie. Aucun juif n'est capable de dire qu'il descend de Ruben, de Neftali, de Jacob, est capable. Pas Jacob est la souche, mais des douze et treize fils, douze plus un ou deux. Donc, ça ne sert de rien de dire que je suis juif et je le resterai. Mais de quelle tribu êtes-vous? est importante, voyez-vous. Bon. Alors, voilà un exemple, voyez-vous, où l'Église a eu non seulement une raison positive, religieuse, mais une raison de prudence, de psychologie, de ne pas laisser arriver, bon, ça se passe, il y a plus fort de raison, l'épiscopat et le cardinal, un juif, parce que les juifs sont rarement modérés. Alors ça, c'est encore une psychologie, voyez-vous. Ça a été, il y a des phrases terribles de saint Paul. Mais enfin, je ne cite pas là-dessus parce que vous pourriez penser que je suis antisémite. Or, j'ai de très bons amis juifs. On dit toujours, on s'en sort de cette manière-là. Mais moi, je ne m'en sors pas. L'ami juif qui est un homéopathe de premier ordre, voyez-vous, qui est d'ailleurs, qui s'est converti. Qui était non seulement un très bon médecin, mais un musicien de grand talent, etc. Bon. Mais je prendrai d'autres exemples, voyez-vous. Pour ce qui est, ça c'est un des empêchements à l'ordre. Mais il y a d'autres empêchements. L'empêchement qui n'a plus d'application aujourd'hui, beaucoup. L'empêchement d'un chrétien qui, avant d'être élevé au sacerdoce, aurait été juge chez les Romains, juge dans la société romaine païenne. Et à ce titre-là, il aura condamné à mort. Il était éliminé, voyez-vous. De même, parmi les motifs d'exclusion, il y avait les gens qui s'étaient, les hommes qui s'étaient mariés deux fois, c'est-à-dire qui étaient devenus veufs, puis qui s'étaient remariés. Ils étaient exclus, c'était sévère. Ensuite, il y a eu, plus tard, mais ça c'est pour le mariage, les consanguins, n'est-ce pas, alors vous avez tous ces motifs dans le droit canonique, il faudrait s'y reporter, les motifs d'exclusion. Alors ceci, ces exemples que j'ai pris, montrent que les lois de l'Église ne sont pas simplement des conventions ou des espèces d'interdit à la manière des hindous, n'est-ce pas? Ce sont des exclusions très sages qui sont fondées sur la volonté de notre Seigneur, sur la promulgation des apôtres, mais sur l'expérience séculaire. Par exemple, les esclaves ne pouvaient pas tout de suite, sauf s'ils avaient été émancipés, n'est-ce pas? Ce qui est exposé, alors là, il y avait un autre danger, c'est que l'esclave simule le baptême afin d'être émancipé, parce qu'il était émancipé par le baptême, et alors, par le fait même, il pouvait devenir prêtre, et même évêque. Alors voyez, retenez ceci, j'ai trop insisté sur ce sens, retenez le principe, c'est que, quand vous avez affaire au droit canonique, ne vous laissez pas arrêter par des prescriptions qui vous paraîtront trop formalistes, trop judaïques. Chaque chose est raisonnable. Et ceux qui connaissent, comme notre ami qui est au Vatican, le président de la Vatican, cet autrichien, salésien, je dis son nom, et donc comme Pfister.
La bibliothèque vaticane,
parce qu'il pourrait être utile pour beaucoup de choses, et il est très fidèle, très fidèle. Eh bien, c'est un historien du droit de grande classe, n'est-ce pas, de classe internationale. Vous retrouverez son nom, il a écrit différents ouvrages. Bon, alors, première remarque. Alors, deuxième remarque, maintenant, plus concrète. Vous avez les dents, je suppose que vous voulez vous mettre à l'étude du droit canonique. Eh bien, commencez d'abord pour vous par voir les grandes divisions comme je vous les ai faites tout à l'heure, n'est-ce pas ? Les normes générales, les personnes, les choses, les procès, et les délits et les peines. Alors, c'est comme si vous voulez un petit adolescent qui étudie la géographie. Avant d'étudier tel canton de, disons, de, du Var ou des Alpes-Maritimes, il étudie la carte de France. Eh bien, de même, il faut étudier la carte géographique du droit canonique. Dès lors après, vous allez, en tâtonnant, parfois en tâtonnant, vous allez à tel ou tel livre. Parce que c'est divisé en livres, les livres en secteurs, vous verrez. Ça, vous n'avez qu'à vous reporter. Je me suis un petit peu moqué de ceux qui faisaient du droit canonique avec une table des matières. C'est Elzar. Il y a beaucoup de ceux qui ont écrit récemment d'une manière anonyme. Je reçois comme ça, là, je me demande comment on a eu mon adresse, des feuilles informes qui attaquent les personnes qui nous sont très chères, qui vous sont très chères et qui nous sont très chères. Mais ça n'est jamais signé, c'est anonyme. Ce qui est déjà vil. Mais en plus, c'est vil dans un autre sens, en ce sens que c'est fait par des incapables. N'est-ce pas ? Alors ces incapables ont feuilleté une top de matière. Ah, bon, ils ont vu hérétique. Ils ont vu excommunication. Bon. Alors ils sont allés à l'article, au canon, et puis ils ont vu que par excommunication, on est que par l'hérésie, on est passible de l'excommunication. Alors, disent-ils, ils raisonnent. Or, quand on est excommunié, on est exclu de l'Église. Donc, un pape qui aurait prononcé une hérésie serait excommunié et il serait exclu de l'Église. Il ne serait plus pape. Donc, l'Église est sans pape. Voyez-vous le raisonnement ? C'est un raisonnement à la fois d'arithméticien et d'arithmétique. Pascal disait ceci, les mathématiques rendent l'homme intelligent en mathématiques et sot dans tout le reste. C'est vrai. Pascal avait la permission de dire ça parce que c'était un mathématicien. Avec, comment on dit, c'est Chateaubriand qui a dit ça, avec des barres et des ronds, il avait refait les mathématiques. Une très belle chose de Chateaubriand. Non. Alors, il faut, si vous êtes amené à étudier tel plan spécial du droit canonique, il faut, oui, recourir à pour vous y retrouver, au chapitre. Mais alors après, étudiez les auteurs. Et j'ai vu que vous aviez des auteurs remarquables là-haut. Vous avez une bibliothèque remarquable. Mais, le droit canonique et de théologie aussi. Et alors, à ce sujet, je vais faire une application importante qui vaudra non seulement pour le droit canonique, mais également pour la théologie. Il faut connaître les mots, les termes. Bon. C'est très important en théologie. Et c'est très important, encore plus en droit canonique. Voilà par exemple le mot, je prends des exemples de théologie d'abord. Si vous prenez le mot sacrifice, vous dites, n'est-ce pas, on prouvait contre les premiers protestants que la messe est un sacrifice parce qu'on trouve dans Saint Cyprien, dans Saint Chrysostome, le mot sacrifice à propos de l'offrande du pain et du vin. Mais là-dessus, un théologien protestant qui aimait le mot sacrifice, on le trouve un exemple pour des faits qui ne sont pas du tout le sacrifice de la messe. Et cité, alors il y a un ou deux psaumes qui parlent du sacrifice de louange, du sacrifice des lèvres, sacrificium labiorum, voyez-vous, c'est-à-dire de la psalmodie. C'est un sacrifice, mais un sacrifice tout à fait différent, qui n'a qu'un sens analogique avec le sacrifice de la messe, qui est l'oblation d'une victime. Alors, si vous trouvez le mot sacrifice, ne concluez pas trop vite. C'est-à-dire, cherchez le sens exact dans le contexte de tel père de l'Église ou d'un tel auteur à ce mot sacrifice. De même également le mot sacrement. Voyez-vous, vous pourrez trouver dans certains cas le mot sacrement a piqué, disons, au lavement des pieds que notre Seigneur fit à la dernière scène. C'est un sacrement, c'est un signe, voyez-vous, mais qui n'a pas toutes les conditions requises pour qu'il y ait sacrement. Parce que pour qu'il y ait sacrement, il faut premièrement, deuxièmement, troisièmement. Alors, faites-vous, là je suis de plus en plus concret, faites-vous un lexique, un dictionnaire personnel à votre usage, où vous relèverez des mots ou des expressions fréquente en théologie ou en droit canonique, et vous mettrez en face une définition, la définition qui sont toutes faites dans le droit canonique. Alors là, vous les prendrez. Alors, je vous signale, là, je vais vous donner cette référence parce qu'elle est importante pour le droit canonique et à propos de la vie religieuse qui vous concerne plus spécialement. Notre père Capello, dont je vous parlais tout à l'heure, avait une mémoire des chiffres vraiment miraculeuse. Il citait des canons par cœur, 4 ou 5 à la suite, moi malheureusement. Alors je retrouve d'après la place. Alors c'est au livre relatif aux personnes. Et dans les personnes, il y a d'abord les clercs séculiers, et puis il y a les clercs religieux. Alors, en tête du chapitre des religieux, vous avez un vocabulaire qui est indispensable. Je vais vous donner la référence exacte. Voilà, c'est le canon 488. Je vous dis 488. Alors là, vous avez dans ce canon 488 des termes canoniques relatifs à la vie religieuse qui, pour ceux qui ne sont pas initiés, surprennent. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une religio ? Religio, eh bien, ça vous le savez sans doute. En droit canonique, religio ne signifie pas la religion catholique, bouddhiste. Religio signifie un institut religieux. Un institut religieux, c'est-à-dire une congrégation, un ordre monastique. Religio. Bon. Vous avez ensuite le mot ordre. Qu'est-ce que c'est qu'un ordre ? Qu'est-ce que c'est qu'une congrégation monastique ? Ce que c'est qu'une religion de droit pontifical ? Une religion de droit diocésain, une religion cléricale, ce que c'est qu'une maison religieuse. À quel moment une maison méritait-elle d'être une maison religieuse ? Maison formée ou pas formée ? Alors, vous avez tout un lexique tout fait, là, voyez-vous ? Puis alors après, dans les autres chapitres, vous verrez ce que c'est qu'un chapitre de religieux, ce que c'est qu'une profession temporaire, une profession perpétuelle, une profession solennelle, voyez-vous. Alors, il faut connaître, oui, puisque toutes ces choses-là vous concernent. Alors, à ce sujet, je crois que quelques-uns d'entre vous se sont inquiétés de savoir ce que c'était que Pia Unio. Pieux Union, ça vous intéresse directement. Alors, je vous signale ceci, c'est que le mot de Pia Unio, il a eu question dans une partie du droit canonique où il est question des confraternités pénitents, qui sont tout autre chose que la Pia Unio à laquelle vous souhaitez appartenir, voyez-vous. Alors, je vous signale ceci. Il existe un manuel très utile dont je vous donne le titre, qui est en italien. Il nuovo diritto dei religiosi. Le nouveau droit des religieux. C'est donc tout récent, puisque l'imprimé est de 1973. Et alors, ce père Escudero, qui est un Espagnol, comment appelle-t-on la congrégation fondée par le... On ne sait jamais le nom de ses pères. congrégation récente, puisque les MMM, d'ailleurs. Et là, on va, il va mettre ça. On va, peu importe. Oui, CMF. Ça ne veut dire rien, ça, la communauté de Marie. Alors, ce père Escudero, il y a des choses très utiles ici. Alors, il dit ceci. Il étudie, c'est au numéro 23 de cet ouvrage-là, quelque chose de très important pour tous, je l'espère non pour vous, quels sont les degrés d'une approbation, les degrés d'une approbation de l'institut religieux. Alors, il y a d'abord, dit-il, une association de fait, de facto, c'est-à-dire de fait, quelques jeunes gens, quelques jeunes filles, qui se reconnaissent entre eux des affinités intellectuelles, spirituelles, un désir de perfection, s'unissent. Bon, c'est une simple association de fait, il n'y a rien de juridique. Alors, ça c'est le premier degré, et c'est comme ça qu'ont commencé quantité de grandes institutions religieuses qui sont montées très haut. La deuxième chose, c'est l'approbation simple, approbation et simplicité, qui est faite par un évêque. Troisièmement, c'est l'érection, alors nous y sommes, l'érection de ce groupe, vous voyez, l'emploi du mot groupe, qui est un mot plus vague, volontairement plus grand, plus communauté, d'un groupement, l'érection d'un groupe par l'évêque en pieuse union, in pia unione. Ah, et c'est là qu'il peut y avoir, hélas, des confusions. Ah, Monseigneur, là. Monseigneur, je vais reprendre parce que ça me paraît particulièrement intéressant. Je suis la question de la pia unio, et je viens de recommander la lecture, au moins partielle, d'un ouvrage que vous n'avez peut-être pas à la bibliothèque, un ouvrage d'un père Gérard Escudero, qui a fait un petit ouvrage très pratique, intitulé Il nuovo diritto dei religiosi. C'est édité, ils ont à Rome une librairie qui s'appelle Alma Roma Commentarium pro Religiosis. C'est à la Via Pasquale Paoli, numéro 4. Alors, vous pourrez voir ça. Alors, il explique à un certain moment quelles sont les étapes d'une approbation. La première étape, c'est un simple groupement de fêtes, de jeunes gens, de jeunes filles, qui se sont rapprochés parce qu'ils avaient certaines affinités, certains goûts communs, et surtout le goût religieux, n'est-ce pas ? Ça, une association de fêtes, ça peut durer indéfiniment et ne jamais dépasser une association de fêtes. Ensuite, le deuxième degré, c'est l'approbation simple par l'évêque. L'évêque où se trouve ce groupement. Le troisième, alors, c'est l'érection en pieuse union. Alors, voyez-vous, c'est ça qui vous a fait. L'érection en pieuse union par le Seigneur évêque. Alors là, l'auteur dit en note ceci. Queste, je vais vous dire en italien et puis Monseigneur le traduira. Queste pie unioni, ces pieuses unions, sono caractéristiche. Elles sont caractéristiques, c'est-à-dire elles ne doivent pas être confondues avec des pieuses unions qui portent le même nom, mais qui ne sont pas seuls, qui doivent aboutir ensuite à un institut religieux. Alors, voyez-vous, elles sont diverses, elles sont différentes. Da quelle ordinarie, le pieuse union ordinaire, dont le Code parle dans un autre chapitre du droit canon, où il est question des associations, de pénitents, des confréries, des choses qui n'aboutissent jamais à un institut religieux, voyez-vous. Ce sont simplement des associations, pieuse, mais qui ne sont jamais érigées en pieuse union au sens de celles qui doivent aboutir après à un institut comme celui auquel vous aspirez, voyez-vous. Alors, c'est à la page 28, numéro 23, c'est en note. Alors, c'est pieuses unions qui sont la troisième étape d'une religion, elles sont différentes pour deux raisons. S'il y a pour la finalité, que ce soit pour la finalité avec lesquelles elles ont été instituées, qui est d'arriver, qui est giungere ad essere religiosi, qui est de parvenir à devenir religieux, voyez-vous, ce qui n'est pas du tout le cas des pieuses unions dont il est question vers le canon 1480, je ne l'ai pas en mémoire, voyez-vous, auquel on serait tenté de se référer parce qu'il y a tout un choix. Je pourrais le chercher tout à l'heure si vous me demandez, voyez-vous. Alors après, il y a ceci très, très important, voyez-vous. Alors le quatrième degré, c'est le decretum laudis. C'est le décret de louange qui est accordé par Rome à la demande de l'évêque. Après un certain nombre d'années d'expérience, on dit, ben oui, cette pieuse union s'est révélée à la fois très digne de monter plus haut, n'est-ce pas, et d'avoir une finalité vraiment caractéristique. Oui. Alors, ici, j'ajoute une chose qui est tout à fait importante. Je ne ferai pas d'application, mais j'espère que vous la ferez de vous-même. Du coup, je change de lunettes. Un des grands papes canonistes du XIIIe siècle, Innocent III, si je me souviens bien, a fait une décrétale importante, une constitution apostolique, pour dire qu'il ne fallait pas multiplier les ordres religieux. Parce que il y avait une telle prolifération à ce moment-là que cette prolifération risquait de faire tort aux ordres déjà existants. Et Dieu. Deuxièmement, il suffisait qu'il y ait un exalté, un illuminé, qui se croit capable de devenir général de ceci, le prieur de ceci, pour réunir autour de lui des garçons, des jeunes gens, des jeunes filles, et puis de construire, de bâtir, et puis de chanter l'office, de mettre en capuchon, de faire des défilés, ça ne suffit pas, ça. Ça ne suffit pas. Parce que, à ce compte-là, Moon, dont vous entendez parler, le fameux Moon, M2ON, vous savez, qui réunit des millions et des millions et des millions d'adeptes, n'est-ce pas, serait, je dirais, apte à devenir chef d'ordre. Voyez-vous, ce n'est pas le nombre qui fait les choses. Il faut, quand on est dans un ordre religieux, ou pas un ordre monastique, ce qui est tout à fait une pieuse union, parce qu'une pieuse union peut être rattachée aux instituts séculiers, ou bien aux instituts diocésains, comme sont les Sulpiciens, les Lazaristes, je crois les Pères du Saint-Esprit aussi, je crois, n'est-ce pas, c'est une société religieuse sans vœu. Mais peut-être quoi.
Religieux.
Vous avez des faits. Oui. Mais par exemple, les Sulpiciens n'ont pas de
faits.
Une promesse d'obéissance, les oratoriens non plus. Et je crois qu'il y a en effet deux grands. Il y a les spiritains et puis, je crois, les rédemptoristes. Oui, je crois. Enfin, ça, c'est connu, vous trouveriez ça dans les portes. Alors, il faut se garder de cela, voyez-vous. Parce que on risque de laisser entrer dans des ordres monastiques qui n'ont de l'ordre monastique que des apparences et qui risquent ensuite de s'effondrer après avoir produit toutes sortes de tristesses qui ont fait pleurer la Sainte Église. Elle a mis comme ça, simplement dans les 30-40 dernières années de ses commencements qui ont mal tourné. Pas très loin, je peux dire ça, parce que c'est désormais quasi public, pas très loin de la ville de Draguignan, où je suis en résidence très, très provisoire, n'est-ce pas ? Je ne dirais pas surveillé, mais en fait très provisoire. Il s'est fondé à l'initiative d'un abbé que j'estimais bien, qui était ce qu'on appelle un traditionnaliste. Une espèce d'association, de groupement, qui, extérieurement, d'après ses statuts, d'après sa reine, était très sympathique. Il y avait plusieurs degrés, et on pouvait être prononcer des promesses, et ensuite, ou bien être dans le monde, et puis on avait des réunions en communauté. Et ça, j'ai vu mes propres yeux, si vous ne me croiriez pas. On pouvait faire son noviciat par correspondance. C'est ingénieux, ça. Il fallait qu'on démontre, il fallait y penser. Alors, de cette manière-là, vous aviez toutes sortes d'excentriques, d'extravagants, qui faisaient le noviciat par correspondance. Et puis, alors qu'arrivaient, passer les vacances, il y avait beaucoup d'écologistes. Il faut, pendant ces vocations, il y a beaucoup d'écologistes parce que on vient passer un mois, deux mois, puis on disparaît. On vit aux frais de la princesse et de cet abbé. Hein. Et puis ça tourne mal, n'est-ce pas ? Après la première guerre aussi, il y a eu les environs de Paris, l'eau vive, ça s'appelait l'eau vive, il y avait des dominicains qui se sont compromis dans ces histoires-là, puis ça a très mal tourné. Il y a eu. Sans parler du réarmement moral, vous n'avez pas entendu parler du réarmement moral qui avait été fondé par un Suisse ici, Acco, qui est dans un des cantons, je ne sais plus lequel. Bien, c'est parti comme une fusée. Notre ami Prévost s'était compromis dans cette histoire-là avec le cardinal Liénard. Alors, soyez donc prudents. Saint-Paul dit « Omnia probate, quod bonum est tenete ». Alors, vous êtes parti, je crois, dans votre institution, d'une manière qui correspond très exactement au degré exposé ici tout à l'heure. Vous avez eu au point de départ l'approbation, vous n'avez pas eu les cruntum laudis. Ce serait une erreur de dire, parce que il y a des films de formule pour ça, n'est-ce pas ? Vous avez été approuvé ad experimentum. Bon, eh bien, ça vous a donné, alors là-dessus, j'ose être affirmatif, ça a donné un certain droit. Un droit que les canonistes appellent un droit acquis. Alors, ce droit était ad experimentum et pour 6 ans. Alors là, je dois dire, je vais exprimer une opinion personnelle, on pardonnerait, monseigneur, pardonnerait, une opinion personnelle. C'était très dangereux parce que vous pouvez faire, certes, confiance à la Providence. Vous pouvez faire également confiance à l'évêque qui était à cette époque-là, monseigneur Charrière, était un très digne évêque, monseigneur, qui était un ami, je crois, de monseigneur. Et alors vous pouvez vous dire, même si dans 6 ans, il fallait y penser, dans 6 ans, Monseigneur Charrière sera atteint par la triste limite d'âge, je dis triste limite d'âge, qui est une honte que les évêques soient comme les gardes suisses, n'est-ce pas, comme les Suisses, ou les, qu'on puisse dire, ben vous avez 55 ans, allez, à la retraite. C'est indigne, ça. C'est indigne. Il faudra bien écrire là-dessus, on va bien écrire. Quand un évêque, s'il n'est plus capable, qu'on lui donne un coadjuteur, voyez-vous, mais qu'on le laisse, n'est-ce pas ? Il y a une chose, mais ça m'entraînerait loin, il y a une reine assez connue qui s'appelle la reine Cunégonde, elle est assez connue dans l'école primaire, on parle de reine, elle interroge, je crois que c'est Saint Grégoire, elle interroge, qu'est-ce que je dois faire, notre évêque perd la tête. Ce sont des choses qui arrivent, ça, n'est-ce pas ? Mais très visiblement, parce que c'est pas toujours très visible qu'on perd la tête. Alors, Cunégonde, Alors, qu'est-ce que devrait penser Grégoire ? Il dit bien, équivalemment, il dit, nommez-lui un auxiliaire, comme c'est beau ça. Il n'est pas noble que cet homme qui a servi pendant 20, 30, 40 ans, qu'on le mette à la ferraille, n'est-ce pas ? Mais c'est pas permis, ça. Ça, c'est caractéristique du siècle où nous vivons, un siècle féroce, indigne, vide. Bon. Hein. Si vous l'avez enregistré, je dis, ne l'effacez pas, je maintiens, et je signe. Je l'ai à peu près écrit. Bon. Alors, bon, non plus que 10 minutes. Alors, l'avenir, eh bien, l'avenir, la Providence vous l'indiquera. Mais, je crois pouvoir dire que, avec toutes les raisons qu'on peut invoquer pour suspendre cette expérience de 6 ans, il y a une chose qu'on ne peut pas détruire. C'est que une durée aussi large que 6 ans, c'est beaucoup 6 ans. C'est l'équivalent que. C'est la clepsydre des Romains, non ? Vous savez, la goutte d'eau. Hein. Et mais d'autant que ma montre retarde. Alors, voyez-vous. Alors ça, je vous dis, je vous invite ceux qui sont plus aptes au droit canonique de l'étudier dans une partie du code qui, j'espère, ne sera pas modifié, qui est la partie relative aux actions, les actions qui sont les actions judiciaires. Oui. Alors là, vous avez, lorsque un particulier, et à plus forte raison une personne morale, c'est-à-dire un groupement, a eu un certain droit acquis, il peut invoquer cette possession de fait durable pour dire, eh bien, je me maintiens, je continue. Et si vous voulez prouver que ma possession est caduque, qu'il faut l'abolir, prouvez-le. Moi, je maintiens cette possession de fait. Alors là, c'est très difficile de prouver que cette possession est illégitime ou bien qu'il y a des faits nouveaux qui autorisent. C'est très difficile, voyez-vous. Et parce qu'il faut prouver qu'on a démérité. Démérité non pas sur un point particulier et sur un point qui est irrémédiable, mais qu'on a démérité sur un point capital qui intéresse l'intérêt commun de l'Église, voyez-vous. Alors cette chose-là a été étudiée à toute jurisprudence. C'est une action du droit romain, ça. Et les canonistes du Saint-Siège sont très férus. Vous savez qu'il faut en principe être docteur en droit romain, en droit civil, pour être avocat à la droite. Alors étudier cela, non seulement théorie, d'une manière théorique, mais d'une manière pratique, afin que, éventuellement, vous pouvez dire, mais on nous frustre d'un droit, ce qui est une véritable injustice, voyez-vous. Et nous ne sommes pas dans la situation d'un particulier qui aura fondé un ordre monastique sans avoir été désigné ni par l'évêque, ni par le général, qui se sera institué lui-même prieur. Ce qui est une énormité. Car, nous avons la parole de Saint-Paul, personne ne s'attribue un honneur, si ce n'est celui, d'ici, qui vocatur en Deo tamquama, nemo subi sipi honorem, d'ici, qui vocatur a Deo tamquama, comme Aaron. Aaron ne s'est pas institué chef de la tribu qui était chargé des sacrifices, il a été choisi. Il a été, comment dirait aujourd'hui, missionné. C'est-à-dire, il a reçu une mission. Laquelle mission s'ajoute aux capacités qui peuvent être plus ou moins grandes, mais qui sont canonisées à partir du moment où l'Église a dit, eh bien, je vous donne mission. Je vous enlèverai peut-être cette mission, mais je vous la donne. Et tant que vous l'aurez, vous pourrez faire ce que fait un prieur, c'est-à-dire admettre au noviciat, admettre à la première profession, à la profession temporaire, voyez-vous. Ça, c'est indispensable. Je parle de l'ordre monastique. Hein. Pour une congrégation, c'est différent. par une pierre ou Dieu, c'est différent. Enfin, retenez qu'au moins, au moins, les principes généraux doivent être au moins analogiquement observés. Voyez-vous, observés. Et sinon, nous sommes en pleine anarchie, n'est-ce pas? Et j'aurais voulu vous parler, mais enfin, je pourrais donner une chose qui est aussi très importante pour vous, c'est les relations entre les instituts religieux de quelque ordre qu'ils soient, que ce soit Pionio, que ce soit des instituts séculiers, que ce soit des congrégations, que ce soit des ordres monastiques, il faut qu'on se pose en France la question des rapports avec l'autorité laïque, pour savoir comment vous pouvez être ou protégé ou attaqué par les lois laïques. Vous savez qu'en France, les congrégations ne sont pas reconnues. Alors il faut pouvoir vous protéger pour vos biens là-dessus. Je pense que vous êtes suffisamment armé là-dessus, n'est-ce pas? Il y a des associations de 1901, etc. De ce que vous avez entendu, je ne mets pas tout sur le même plan de certitude. Il y a des choses, on peut être certain parce qu'on l'est avec l'Église. Il y a des choses où j'ai exprimé une opinion, une préférence, alors là, peser, sous-peser. On m'a dit peser tout.